is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada. Nashindwa na mali sina we.
Galère, bonjour, bonjour chères auditrices et auditeurs pour cette émission de Livres et Amis du mercredi 2 août. Dominique et Françoise et de l'autre côté de la vitre, Louise et Angèle. Ce sont les vacances, pas pour tout le monde malheureusement, mais le temps des vacances tout de même. Et pour les vacances, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai prévu de vous lire des nouvelles, des textes entiers de préférence. Et on a donc commencé la semaine dernière avec H24, ce recueil d'histoires de femmes écrites à partir de faits réels, pas toujours drôles, hélas. H24, je vous renvoie à la lecture du recueil, au spectacle et au film court sur Arte. Vous les trouverez dans les je sais pas comment ça s'appelle, les replays envisageables ces temps-ci. On va continuer donc cette semaine avec d'autres histoires, mais auparavant, petit rappel de nos loisirs de vacances à Marseille. D'abord, ciné plein air qui continue tout l'été, dont le programme se trouve sur le site de la ville. Et puis, la semaine prochaine, des concerts gratuits dans tout le département pour aller se promener dans les villages des Bouches-du-Rhône. Le site, c'est festivalpiano.com et ça s'appelle en fait Sur les routes de Provence, c'est les concerts gratuits dans le cadre du festival de piano de la Roque d'Anthéron. Alors revenons à nos nouvelles, aujourd'hui celle d'une autrice belge, bah oui on n'est pas raciste hein, donc faut pas être raciste quand même, une autrice belge très connue et reconnue, Dominique Coster-Mans, qui a publié de nombreux romans et puis donc des recueils de nouvelles. Elle est, pourrait-on dire, spécialiste de la nouvelle. Ce recueil s'appelle « Des provisions de bonheur » et c'est une femme engagée. Elle a aussi trouvé des formes d'expression, on pourrait dire à mi-chemin entre le réalisme et la fiction. En bien des occasions, elle s'est engagée dans des combats féministes ou civiques contre les discriminations et elle a mis en scène, pourrait-on dire, un certain nombre de ces combats dans des publications, en particulier dans des nouvelles. Mais dans les nouvelles d'aujourd'hui, c'est plutôt un recueil doux amer, enfin un recueil où tout n'est pas rose, mais on va aller pêcher quand même des lectures pas trop sombres. Et on commence avec Tempête. Tempête, que va nous lire Françoise ?
Elle a trop faim. Elle braque le volant vers la gauche et gare la Corsa à contre-courant de la circulation. Dans le chenal, une armada de petits bateaux qui dansent, qui roulent, qui tanguent. En face, des façades hautes, claires. On dirait la photo d'un puzzle 1000 pièces. Bonjour l'embrouille avec cette forêt de mâts et ces ardoises si noires qu'elles en bleuissent le soleil, au soleil. À droite, un magasin de souvenirs, baromètre, instruments de marine, carte postale. Puis la capitainerie, brasserie, menu à 69 francs français et 129 francs français. Allez, brasserie c'est bon. Seule, elle craint le restaurant, le service, la quantité, la qualité. À quoi bon ? Elle a juste faim. Elle craint le bar. Entre-t-on seul dans un bar? Ses regards d'homme et puis les codes. Bar tabac, presse tabac, un express, un grand crème et les pourboires. Faut-il laisser un pourboire? Combien? Ce matin, le garçon n'a même pas rendu la monnaie. C'est compliqué, la France. Et ces garçons de café qui croient qu'avec la langue, vous maîtrisez tous les codes. Brasserie, c'est bien. Moule marinière frite, parfait. Elle entre. Il y a deux hommes attablés au milieu de la salle. Le patron arrive. Qu'elle s'installe où elle veut, mais elle se fait discrète contre un mur. Elle tourne le dos aux hommes et au patron. Elle voit le petit port. Pas très sérieux, ce petit port, dans la tempête. Elle ne voit pas les nuages de là où elle est. Juste les mâts qui bougent dans le vent et à l'avant-plan, le trottoir mouillé et deux pauvres palmiers en peau qui n'emmènent pas large. Les nuages, elle les suit depuis hier. Elle roule dedans, elle les prend en photo. Ce matin, il y en avait des lourds, des gris, qui parfois laissaient passer les rayons bas du soleil sur les terres. C'est toujours le même spectacle, rouler dans la campagne normande, labour d'automne, betteraves, vaches présumides. Puis grimper et d'en haut découvrir une anse, un arrondi maternel de la côte, un village balnéaire, des falaises à gauche et à droite, et les nuages de derrière la tempête. Elle a traversé la tempête et elle savait que derrière il y aurait des nuages et de la lumière à mettre en boîte. L'an dernier, pareil, elle a traversé la grande tempête de l'an 2000 et derrière, la lumière du midi, les nuages, Marseille et lui. Marseille, ce n'est pas rien. Un port, des docks, des hangars, des grues, des ferries. C'est sérieux, Marseille. Ici aussi, pas loin, Fécamp, des hommes sur des bateaux, ils travaillent, ils pêchent, ils ne plaisantent pas, surtout avec ce temps. D'ailleurs, même les maisons ici ne rigolent pas. Elles se serrent en briques ouvrières comme dans un coton.
Coron.
Et d'ailleurs, tout à l'heure, c'est pas « ils ne plaisantent pas », mais « ils ne plaisancent pas ». Mais dans cette tempête-ci, il y a quelque chose de salé et de doux, de triste. À Marseille, il lui téléphonait 4 fois par jour, autant dire tout le temps. Elle avait roulé 1000 kilomètres et traversé 2 tempêtes et elle avait croisé des forêts brisées et des gens perdus le long des routes comme si c'était l'exode. Mais il était là, toute la journée, au bout du fil, il l'encordait, dans ce vent qui arrachait les arbres. Ici, c'est autre chose, c'est calme. La capitainerie est une petite brasserie, toute en bleu et blanc, les assiettes, les serviettes, la bouée accrochée au comptoir, le filet de pêche tendu au plafond, et même le vin qui est frais. Les clients discutent avec le patron de ce bateau italien en difficulté entre Cherbourg et Le Havre. Ils se demandent si on va pouvoir le remorquer avec ses 6000 tonnes de produits dangereux. Alors, prise d'une audace inouïe, elle se tourne vers eux, elle leur dit « Il a coulé ». Les hommes ne savaient pas, ils sont tristes. Ils disent que ces produits toxiques-là ne sont pas solubles dans l'eau de mer. On va peut-être les pomper. Enfin, ils ne le savent pas, ils sont inquiets. Ils ne lui en veulent pas. Il y a un jeune, 25 ans, et un autre, 40 peut-être. Ils parlent de la pêche, des bateaux. Ils disent des mots techniques. Ils tutoient la mer. Elle, non. Elle n'en connaît que les bleus. Ce matin, marine, outre-mer, cobalt, améthyste, turquoise, pétrole. Bleu pétrole, quelle ironie. La tempête a renversé l'Erika l'an dernier. Elle a sali la Bretagne, les rochers gris, le Varec. Ces hommes-ci ne savent pas encore quels dangers courent leurs plages, vers lesquelles le vent poussera de petits filaments argentés, bien plus dangereux peut-être que le pétrole. Ce matin, la mer était encore un peu sauvage, toute écumeuse de fatigue sous le ciel bas. Ça aussi, l'écume, les rouleaux, les embruns, le blanc des falaises, elle a tout mis en boîte. Elle fait de la photo. C'est bien les photos. Qu'est-ce qu'il disait Douaneau encore? Un centième de seconde par-ci, un centième de seconde par-là, c'est toujours 2-3 secondes prises à l'éternité. De toute façon, C'est tout ce qu'elle sait faire, regarder, prendre, cadrer, mettre en boîte, capturer, voler à l'éternité. Sinon, il y aurait de quoi hurler, non ? Pleurer, tempêter, se jeter du haut d'une falaise, si on ne volait pas les choses, si on les laissait s'envoler, puisqu'il ne l'aime plus, d'une tempête à l'autre. Une famille entre, et tout à coup, cette brasserie prend quelque chose d'humain. Un père, une mère, un garçon, une fille. Leur scénique est immatriculé dans les Bouches-du-Rhône. Marseille ? Les enfants veulent des moules, les enfants veulent des frites, la petite aura du poisson. Elle cherche sa serviette, elle voudrait que son père allume une cigarette. Elle veut aussi des moules. Pourquoi les pères décident toujours ? Elle babille, elle a 5 ans, elle s'appelle Manon. Le père lui dit de se taire 10 minutes, les 10 minutes durent 3 secondes. La mère rit, le père montre 5 doigts, mais il sourit. Ce père-là n'a pas beaucoup d'autorité. Ils ont des cirés jaunes, des bottes, ils viennent se frotter au vent. Tout à coup, une rafale. L'enseigne tombe juste devant la porte. Elle tombe lourdement. Elle entraîne un câble électrique, mais rien n'est brisé. Les clients du fond appellent le patron. Le patron s'appelle Étienne. Il téléphone, il dit « Heureusement que personne ne passait par là ». Il rit. Étienne, rien ne l'énerve. Des tempêtes, il en a vu d'autres. Il connaît Cayenne et Saint-Martin. Il parle entre hommes de la vitesse du vent, des rafales à 170 et de la tempête de l'an dernier. « Vous savez pourquoi je ne me suis pas envolée dans la tempête l'an dernier ? Parce qu'il me téléphonait 4 fois par jour. Il me disait « Revenez !» et c'était comme de très douces et solides amarres dans le vent, dans ce vent de brut qui déracinait même les arbres centenaires. Derrière cette tempête-ci, il n'y a que les nuages. Elle court après les nuages et c'est ça qui la retient au sol, étrangement. Fuir, traverser les tempêtes, mettre les nuages en boîte. Un peu d'ordre dans tout ce vent, s'il vous plaît. Les clients du fond règlent l'addition et quittent la brasserie. Ils la saluent. Ils sont gentils. Finalement, de quoi avait-elle peur ? Ils disent au revoir à la famille moule frite, mais Manon les snob, le nez dans son poisson. Le patron les raccompagne. Il ramasse l'enseigne et la range contre la vitrine. Il en a vu d'autres, Étienne. Tout à coup, elle s'aperçoit qu'elle ne connaît même pas le nom de ce petit port. Elle ne sait même pas où elle est. Rien ne me distrait de vous.
Avec ce petit texte, le ton est donné, doux, amer, poétique et réaliste à la fois. Et alors maintenant, un peu plus réaliste et amer peut-être, une nouvelle qui s'appelle précisément « Citron amer » et qui a été publiée dans de nombreux magazines européens, puisque, comme je vous l'ai dit, Dominique Costermans, c'est avant tout une autrice de nouvelles et tout à fait reconnue pour ce type d'écriture. Je te dois des excuses. Jim est assis sur un tabouret de cuisine, ses longues jambes un peu écartées, les coudes sur les cuisses, les mains croisées. Il lève la tête et une petite gêne opaque dans le regard. Il dit « Bah oui, je te dois des excuses. Je m'en veux d'être un tel cœur d'artichaut. » C'est tout. Il ne dit que cela. Tu t'en contenteras. De toute façon, tu as déjà baissé les bras. À quoi bon chercher à comprendre, autopsier, disséquer cette petite passion morte ? Jim est là. Il te regarde encore. Une absence fatiguée, un manque. Ta fièvre ne laisse place à aucun sentiment, sinon la tristesse. Et le travail vous attend partout, des denrées en tas, des viandes, des fruits, des olives, des épices. Jim sort les livres de cuisine. Il s'excuse pour les verrater, mais qu'il cesse de s'excuser. Il y a du travail et il y a de désir. Le désir est là, palpable, épais, mélangé à la fièvre. Et il enfle dans cette minuscule cuisine où vous vous frôlez sans arrêt. Jim prend de la place, son grand corps se meut avec des airs de danseur russe incongrus entre l'évier et la petite table. Le frôler t'aimante et t'insupporte. Devant toi, comme les feuillets épars d'une partition, de l'amande, des carottes, des raisins de Corinthe, des concombres appelés. Les lamelles fraîches et veloutées tombent du couteau économe. Lentement, tu superposes les couleurs dans le saladier, orange, vert tendre, marron, puis les parfums, fleurs d'oranger, huile d'olive, citron. À l'autre bout de la cuisine, c'est-à-dire à 2 mètres à peine, lui, de dos. Il mélange le citron à l'huile, ajoute le sel, le piment, les morceaux de poulet, crus, blancs, attendent, rangés dans leur barquette. On demande le pinceau. Il faut se lever, ouvrir les tiroirs, fouiller la vaisselle sale, le trouver, enfin le rincer, se frôler encore. Et la fièvre qui n'arrange rien. Il rit, il dit que tu tousses dans les plats, que tu vas contaminer les invités. Mais tu ne trouves pas ça drôle. Tu te rassieds les tempes battantes. La première nuit, il avait ôté son t-shirt et s'était moqué de sa maigreur, de sa peau blanche. Eh oui, comme un poulet. Il voulait t'emmener à Ljubljana. Pourquoi Ljubljana? Un rêve au bout d'une autoroute, des envies d'Italie, sans kitsch et sans touristes. D'ailleurs, il n'y a rien à voir à Ljubljana, hormis la gare, l'hôtel de la gare, le café de la gare. Et finalement, c'eût été parfait, Ljubljana. C'eût été parfait d'y chercher la mer, pas loin, et de manger des glaces au citron en s'abritant du soleil. Les citrons sont amers. C'est ce qui fait l'attrait du poulet. Poulet mkali, au citron amer. On les coupe en cubes. Leur goût étrange se mêle au piment, à l'olive, et parfume la viande blanche. Jim, tout à coup, dans le silence qui s'est installé, « Ah, je t'ai rapporté l'appareil !»« Bien entendu, tu t'insurges, c'est stupide, cet appareil ne te manque pas, qu'il le garde. »« Mais je ne pourrai plus, » dit-il. C'est tout. Il ne pourrait plus prendre de photos avec cet appareil qui est le tien, celui dans lequel tu as mis à plat, en boîte et en couleur, 10 ans de ta vie. Il ne figera plus les femmes aux terrasses des cafés, ni les lys fanés. Que sa culpabilité le ronge. Quel est le goût de l'amertume? Mkali. Tes lys ont la beauté d'un haïku. Tu répands sur les crudités un mélange d'orange, de gingembre, de cannelle, de miel, d'huile verte, d'amandes effilées, et tu revois les lys fanés, beauté morte, figée en un polaroïde nocturne. Haïku. Trois vers figuratifs dont le sens ne se donne pas. Enfin, pas à toi. Jim verse les blancs de poulet dans le plat de service. Le silence est revenu dans la cuisine. Les haïkus, Ljubljana, les lys. As-tu jamais compris quelque chose à Jim? Tu es fatigué. Et dans les plis de cette lassitude, l'indifférence s'installe comme un haïku fané. Tes pensées vagabondes du côté de cet homme, hier, dont tu ne connais pas le nom, enfin que le nom d'emprunt et les mots. Il t'a écrit souvent, et depuis, cette nuit, le téléphone, la magie de la voix, 2 heures volées à la nuit, à goûter aux choses des mots. Vertige d'une communauté d'esprit transparente. Vertige de parler en aveugle et de la nuit, qui se prêtait aux confidences. On peut dire ce qu'on veut, la nuit, à un homme sans visage. Dire sans forfanterie, mais non sans séduction. La quête du plaisir, inavouable parfois. Dire... La jouissance, surtout, de l'écrire. Avec l'homme sans visage, parler de livres, les siens, les tiens. Avec Jim, photographier les lys, faire la cuisine. Cuisiner comme on fait l'amour, une fête d'essence, une création. Le verbe, la nuit, la chair, le jour. Le poulet sent délicieusement bon, Jim est très beau. L'homme au téléphone n'a pas de visage, mais sa voix promet toutes les séductions. Il manque des ingrédients. Jim se roule une cigarette et il dresse la liste. Noisettes, fromage blanc, graines de pavot, coriandre. Bon, il s'occupera du potage, concombre, lait battu, menthe, pendant que tu vas un petit peu aux courses. Pause, air frais, échappée libre. Mais tu rentres épuisé. Bon, le potage est prêt, la vaisselle s'amoncelle. Tu fais couler l'eau chaude, tu tousses, tu vacilles. Jim te dit « Mais va te reposer, monte te coucher, 1 heure ». Pourquoi est-il revenu? Ce repas, c'était son idée. Alors, fidèle à sa parole, Jim, à son image, on peut compter sur lui. Il ne t'aime plus, il n'y a pas d'explication. Ah, on ne peut pas compter sur lui. Tu t'es laissé aimer doucement, c'était grisant, un homme qui veut. Tu ne résistes jamais. Et puis, les lys, les haïkus, les polaroïdes, la mer, la nuit, tant de beauté. L'opacité de Jim, son désir si dense, se laisser bercer, se laisser aimer. Jim venait, il savait où était le café, les tasses, le vin, et il faisait la cuisine. Comme on écrit un haïku, comme on fait l'amour. Tu te retrouves dans ton lit. La fièvre est douce comme un rêve tiède. Ah, tu te caresserais peut-être. L'idée t'effleure comme une épice. Cannelle, muscade. Jim en bas, en train de cuisiner. Et toi, tu te caresserais en pensant à lui ou à la voix de l'autre. Un peu nerveuse, un peu tendue, au discours travaillé comme une sonatine. Au rire, comme des effilochures de confiance dans un ciel inquiet. Mais tu renonces, par lassitude. L'heure se passe, tu lis un peu, tu écoutes un peu les bruits d'en bas et tu te lèves. Le jour avance, la lumière décline. Le coriandre et l'ail ont remplacé la fleur d'oranger et la menthe. Il s'agit de collaborer calmement à la confection de cigares en pâte à briques. L'opération est délicate. Trouver le tour de main, tu aimerais t'énerver, mais tu ne peux pas, dans le calme et la patience de Jim, comme un chantage. On pourrait s'amuser des maladresses. Oui, les cigares se déroulent à peine posés dans le plat, les miettes d'agneau s'éparpillent et constellent la table. Il y a des emballages partout. Cette saleté des cuisines en chantier. Mais tu ne ris pas. Jim est devenu volubile, il pose des questions mondaines, comment vont les enfants, le travail, l'écriture, les choses de la vie. Tout te semble oiseux. 4 jours qu'il t'a signifié ton congé, sans explication. Alors il joue le vieil ami pas vu depuis des semaines. Ça doit le rassurer, sans doute, ce jeu amical de la normalité. Et tout te semble poisseux. La confection des cigares dure des heures, et plus encore leur cuisson, dans le four minuscule. Bien plus qu'annoncé dans les livres. Les plats font la queue sur la table, il reste des choses à faire, jeter, nettoyer, ranger. Il reste les oranges à peler, à vif, de la menthe à ciseler, de l'ail à piler, des noisettes à griller. Il reste des abricots veloutés, secs, charnus, à fourrer de fromage, à disposer sur les plateaux. Les plats vont rejoindre l'un après l'autre la fraîcheur du garage et s'ajoutent aux boulettes d'agneau, aux salades de concombre, aux carottes aux amandes. Toute la maison sent le Maroc, le Liban, la cuisine séfarade. Jim ne sera pas là demain. Bon, tu n'insistes pas, la nuit tombe, sa présence te pèse, tu voudrais qu'il parte. Il reste les mets de dernière minute et minutieusement, il lâche l'oignon, pèse le riz, coupe la coriandre. Minutieusement, comme s'il avait toute la vie devant lui, il dispose les ingrédients, les plats, les casseroles pour le lendemain. Cette présence de lui à ce qu'il fait t'insupporte, car ce qui aurait pu être connivence, complicité, plaisir n'est qu'absence à toi. Jim t'est, en quelques heures, devenu étranger. Il ne viendra pas, demain, goûter à son œuvre. Il ne te fera pas l'amour. Sa présence t'épuise. Tu voudrais qu'il parte. M. Kali. Alors, on attend nos techniciennes parce qu'on va leur demander de passer ce qui suit. La chanson de Brel, vous savez, notre autrice, elle est belge et bruxelloise, donc on va vous passer de Jacques Brel. L'amour qui passe, l'amour qui reste, en complément des textes de Dominique Coster-Mans. Donc, une chanson de Jacques Brel, la chanson des vieux amants. Ouais.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour. C'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu. Et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais. sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Après Jacques Brel, en contrepoint, quelque chose de beaucoup plus rapide, mais tragique aussi. Putain de rosier. Putain de rosier.
Café soluble, tabac demi-fort, coca light, galette, garagiste. C'est l'été ou presque. Les étudiants étudient, les tondeuses tondent, les voisines papotent, les voisins barbecuisent. Les enfants apprennent à rouler à vélo. Regarde ce que tu fais, allez, remonte, on y va. Le vent agite les lilas fanés, les groseilles et les cerises mûrissent, les fraises poussent, les métastases aussi, hélas. Corrigez texte, téléphoné graphiste, rendez-vous radiologie, boîte fourmi, lac bleu satiné plus rouleau. La porte de la salle de bain est repeinte, la maison sent encore la térébenthine. La cuisine est propre, le salon aspiré, les cendriers vidés. Le garage est bordélique, comme d'hab. Mais le rosier grimpant est tombé, sous le poids de ses fleurs. Ça jonche le trottoir de rose et de rouge, c'est joli. On ne peut plus garer l'auto devant le garage. Redresser le rosier. Tu as dit, passe-moi du fil de fer. Je vais te rattacher ce foutu rosier. J'ai dit, mets des gants. « Mais non, pas besoin, tu répondu. » Puis tu as lancé le fil comme un lasso. « Je t'aime quand tu décides de bricoler en costaud, juste au moment de partir au resto. » Le rosier a résisté. Tu as dit en regardant tes mains pleines de sang, « Je me bats à mains nues contre les rosiers grimpants. » J'ai dit « Mon héros, on a ri. » Encodé texte, coiffeur, photographe, collier pour chat, rendez-vous clinique. Des jours comme ça, quel bonheur, rien ne peut nous arriver. Que du bien, des senteurs de roses par brassées dans tous les vases, des fruits rouges dans la bouche. Tu dis, appuie-toi contre moi. Je fonds. Ton air triste et doux, Puis un clin d'œil, on rit, on l'a échappé belle. Aux larmes, aux épines, aux rosiers. Il ne peut rien nous arriver, que des cerises, des caresses, de jolis mots qu'on enfilera comme des perles. J'en tresserai une couronne que tu poseras sur mon front quand tu m'épouseras. Fruits, pain, coca light, telle mamie, rendez-vous clinique, colis la redoute. C'est une belle journée, on dirait les vacances, rien ne peut nous arriver. Le rosier ploie sous les fleurs, mais il tient. Les enfants rient, les étudiants étudient, les tondeuses tondent. Au loin, bruisse le monde, mais les métastases métastasent toujours. Rien ne les arrête. Je passe de la crème sur tes mains écorchées. Putain de rosier.
Eh oui, putain de rosier. Pour revenir aux saveurs douces amères du début, un petit tour à Bruxelles. C'est moins sérieux, c'est mélancolique. Allons-y, ça s'appelle Extérieure nuit. Extérieure nuit.
C'est Bruxelles, c'est la nuit, il pleut, pour changer. Cet homme sort d'un café branché dans un quartier branché. Saint-Géry est à la mode, même en automne, même sans les terrasses interlopes qui font son charme les soirs d'été. Derrière les lourdes portes vitrées des établissements underground, des mondanités musicales ou littéraires, des femmes aux cheveux courts, des hommes en noir, de la fumée, du vin. Mais là n'est pas la question. Cet homme quitte la rue Antoine Dansertes, ses néons, ses squats, ses cinémas en faillite, et s'engage sur les pavés mouillés de la rue des Chartreux. Il pleut, la nuit n'est pas douce, elle est chagrine. Elle déverse sa tristesse froide dans le cou des rares passants. Cet homme remonte le col de sa veste. Sur le trottoir, au stationnement temporairement interdit, une petite équipe de tournage attend, tous spots allumés, et la pluie se voit, oblique et serrée, dans cette lumière blanche et artificielle. Cet homme les contourne et poursuit son chemin entre les voitures mal garées et le trottoir minimaliste, dans cette rue de plus en plus déserte. À 50 mètres de là, rue du Boulet, sa voiture l'attend le long d'un mur tagué et répond d'un quadruple et rassurant clignotement à l'appel de la télécommande. Contact, ceinture, essuie-glace. Cet homme ne pense à rien, ni aux gens qu'il vient de quitter, évanescents, superficiels, ni à la pluie qui le mouille. Il agit par habitude, il démarre. La rue du Boulet mène à la rue des Remparts, bureaux, entrepôts, qui débouchent sur la rue Antoine Dansertes de nouveau. Mais là, cet homme n'a plus de point de repère. Cette partie de la ville lui est inconnue, tout à coup. Il prend à gauche, il se retrouve boulevard de Nieuport, boulevard du 9e de ligne, et il n'a d'autre recours que de suivre ces boulevards industrieux et sinistres jusqu'à une quelconque indication Isère. Dit une station de métro. Saintelette, répond un tunnel. Les tunnels économisent l'essuie-glace. Cet homme tient sa droite et sort à Madou. Complètement désorienté, il prend la chaussée de Louvain vers les faubourgs, croyant regagner le centre. Épiceries arabes illuminées. Hommes fumant en groupe sur le trottoir malgré la pluie. Il s'aperçoit vite de sa méprise, mais continue à remonter la chaussée. Parce que l'est de la ville, il connaît. Les quartiers autrefois bourgeois ont gardé belle allure malgré les poubelles éventrées et les graffitis. Les feux se succèdent en vert, ils roulent au milieu des deux bandes autorisées, 80 à l'heure pour traverser la place Delhi, autant dire à tombeau ouvert. Il tourne autour de la ville, il en est bien conscient, mais il laisse l'obsession d'un autre quartier s'insinuer lentement dans son esprit. Il se rend à cette obsession, elle l'investit comme une fatalité. À quelque endroit de la ville qu'il se trouve, quel que soit le moment de la journée, mais surtout la nuit, il sait qu'il ne sert à rien de résister. Il se rend dans la joie et le désespoir. À quoi bon rouler dans cette nuit, dans cette pluie, dans cette ville? À quoi bon aligner ces feux de moins en moins verts? C'est ainsi pourtant. Il déboule sur la place Mézère, carrefour au nid des candidats au permis et des conducteurs de tout poil aux heures de pointe. Cette nuit, une douzaine de voitures tout au plus, dans un ballet tourbillonnant et sophistiqué. Il monte par la droite sur le boulevard Reyers, viaduc, tour de la télévision, boulevard Brandt-Whitlock, hôtel de maître investi par des bureaux américains, sociétés immobilières, consultants, publicistes, façade grège, châssis blanc, jardin de devant transformé en parking, architecture néoclassique. Mais tout le monde dort à cette heure, sauf un tram égaré. Caserne, boulevard Général Jacques, feu. L'université a son quartier latin. Des jeunes marchent vite sous la pluie, ils se cachent dans les abribus. En bas du boulevard, rond-point, entrée dans le bois. Il est encore ouvert, malgré la vie de tempête. Ça roule un peu, ici. Sortie du théâtre de poche, entrée des bains. La chaussée de Waterloo préfère les épiceries pakistanaises et les restaurants chinois. Feu, feu, feu. À la hauteur du quartier Saint-Job, faux village, friqué, deux traiteurs chics, deux pâtisseries, un libraire. Cet homme s'engage dans l'avenue Prince de Ligne. La voiture frémit. Elle sent l'écurie. Le cœur de cet homme bat plus vite. Il repère assez tôt les deux cases vitesse et les aborde en douceur. Déconvenu. L'avenue Jean-Pierre Carsoel est barrée par les travaux. Cet homme renonce au bas, tente le haut, c'est pareil. Il se souvient alors d'un chemin étroit et pavé qui se glisse dans la rue convoitée, évitant le sens interdit et s'engouffre, comme un voleur. Ce n'est pas la première fois que cet homme passe dans cette rue. C'est seulement de plus en plus difficile avec ses travaux et ses sens interdits. C'est seulement de plus en plus difficile avec ce cœur qui bat la chamade. Cette ancienne familiarité avec tout ici, les maisons, les trottoirs, les voitures en stationnement, les chats qui maraudent. Il lui faut venir de plus en plus tard et passer de plus en plus vite de peur d'être vu, de peur de freiner, de s'arrêter, de descendre de voiture et d'un geste suicidaire de sonner à sa porte. Sa voiture est là. Il y a de la lumière chez elle. C'est bien. Elle est vivante. Cet homme freine à peine, puis reprend doucement de la vitesse et quitte le quartier Saint-Job. Son cœur bat moins vite. L'angoisse fait place à une certaine tristesse sereine. Elle est vivante, au moins. Elle est vivante, elle existe. Il n'a pas rêvé, là. Un peu plus haut, dans cette maison éclairée, et il ne saura rien d'autre, ni du chat qui ronronne, ni des enfants qui dorment, ni des amis à qui elle téléphone, ni de ses tristesses ou de ses joies, ni même, peut-être, de ce qu'elle ne peut manquer de penser à lui, étrangement rêveuse, les deux mains autour de la tasse de thé, sans savoir pourquoi, juste parce qu'il la frôle en passant à 20 mètres d'elle dans sa cuisine. Cet homme remonte la chaussée de Waterloo, traverse à nouveau le bois, en passant devant la Villa Lorraine, et fonce sur l'avenue Franklin Roosevelt, où un cirque s'est installé à demeure à côté de l'hippodrome. Les feuilles mortes tourbillonnent, aléatoires, au ras du macadam brillant. Contrairement aux habitudes anciennes, cet homme ne va pas chercher l'autoroute par le bois, pas cette fois. Il voudrait encore un peu la ville, la route qui brille, les boulevards, les stations-service ouvertes la nuit. Il prendra le viaduc Hermann de Brou, par où il est entré en ville ce soir. La boucle est ainsi bouclée, comme une évidence. Là-bas, une femme range la théière et la tasse, éteint tout et monte se coucher. Un peu de nostalgie se glisse clandestinement dans ses pensées ce soir. C'est doux et triste, comme une caresse. Va-t'en savoir pourquoi. Il ne pleut plus.
Il ne pleut plus. Oui, il paraît qu'à Bruxelles, il pleut souvent. Et j'ai bien aimé ce tour de ville, là, ce tour de ville et de souvenirs en même temps d'un homme qui... est-ce qu'il le sait? Est-ce que c'est inconscient? Qui cherche une rue, qui trouve la rue, qui trouve la maison, et puis qui repart. Donc le tour de ville à Bruxelles, évidemment, quand on ne connaît pas Bruxelles, c'est peut-être un petit peu des paysans. Mais c'est un tour de ville européenne. C'est un tour de ville avec des quartiers qu'on peut retrouver de capitale en capitale, dirait-on. Ces quartiers chics, ces quartiers moins chics, ces quartiers de migration, ces quartiers colorés, ces quartiers d'affaires, etc., etc. Donc j'ai trouvé que le tour de Bruxelles était assez intéressant. Et en même temps que le tour de Bruxelles, le tour du cœur d'un amour abandonné, ou d'un amour délaissé, ou d'un amour finalement dont on ne saura pas grand-chose. Alors pour finir, une autre petite histoire une histoire un peu grinçante, un peu ironie du sort, comme l'a écrit Paul Guimard. Vous allez voir, ça fait référence bien sûr à une période où, parce qu'il y avait eu des attentats dans beaucoup de capitales européennes, là encore, un bagage abandonné, comme il fait quelquefois évacuer la gare Saint-Charles, un bagage abandonné donc donnait des frissons à notre autrice ou au personnage qu'elle incarne ce jour-là. Donc, la nouvelle s'appelle « L'homme mort », mais je vous rassure, il n'y a pas d'homme mort. C'est plutôt, d'après moi, une petite nouvelle qu'on aurait pu appeler « Échapper à l'attentat ». Vous êtes un homme mort. Eh, il est marrant, ce prof. Ouais, je suis étudiante et je suis pétante de santé, ça se voit, non? Alors, quant à me prendre pour un homme, faudrait quand même être méchamment miro. Bon, d'accord, c'est un exercice de fiction, c'est un exercice de fiction dans le cadre de l'écriture et de l'écriture créative. D'accord, pour un exercice de fiction, mais quand même, sans rire, bonjour la contrainte. Alors, je n'ai pas fait l'exercice. Pas par manque d'imagination ou par paresse, mais sans doute par esprit de contradiction. Je n'avais jamais aimé marcher dans les pas des autres. Oui, je sais, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un péché, ma mère. Mais je suis comme ça. Ce que nous proposait le prof, ce n'était pas juste quelques traces de pas. Vous êtes un homme mort, auquel je devais superposer mon 38 de femme vivante. Non, c'était tout un chemin. En fait, je devais 60 lignes censées me donner le ton, les lire, le temps, le rythme et la cadence de ce que je devais écrire après. C'était un extrait du Styx de Monsieur Georges Olivier Château-Renaud. Et je devais prendre la suite. Oh là là, cet homme-là, Georges Olivier Château-Renaud, il a l'air sympa sur sa photo de quatrième de couverture. Coiffé un peu en pétard, hilar, on dirait un hybride d'Arthur Rimbaud et d'Albert Einstein. Enfin bon, quelques jours avant l'exercice, en léchant la vitrine de la librairie de ma bonne ville, mon amant cynique avait adoré ou sifflé devant justement des œuvres de Georges Olivier de Château-Renaud. Ah, formule lapidaire sans doute, quel enfoiré, mais sans appel. Assorti certes de quelques augmentations d'ordre littéraire. Alors j'ai décidé illico de lire l'intégrale de Georges Olivier et qu'il me pardonne ici ce raccourci. Mais le prof d'écriture romanesque, enfin le prof d'écriture créative, un petit homme sensible et maniéré, fait référence à cet auteur au début de son cours et voilà, ça y est, il faut que je l'aime, il faut sans cesse lire Georges Olivier Château-Renaud par-ci, Georges Olivier Château-Renaud par-là et donc aujourd'hui continuer ces 60 lignes de Georges Olivier de Château-Renaud qui se terminent par « Vous êtes un homme mort ». Bon. Alors, Georges Olivier de Château-Renaud, on s'en est gargarisé, on l'a chuchoté, on l'a chuinté. Mes petits camarades ont gloussé. Mais bon, le prof a dédié à l'idole son dernier exercice et nous devons écrire sur cette lancée. Alors donc, puisque maintenant vous me connaissez, j'ai décidé illico de ne pas faire l'exercice, Georges Olivier ou pas. Alors, cet exercice, donc, trois pages de l'idole en guise d'introduction de la nouvelle que nous devons pondre. L'histoire d'un bonhomme qui, inquiet de petits malaises récurrents, se rend chez son toubib. Oh là là! Et donc, celui-ci laisse tomber le verdict fatidique, censé fouetter notre imagination débridée. « Vous êtes un homme mort !» Et donc, vous me connaissez, un homme mort, moi ? Jamais. Bon, de temps en temps, cependant, cette petite phrase me revenait entre deux rêveries flottantes comme un défi. Vous êtes un homme mort, vous êtes un homme mort. Chiche, semblait me dire la ritournelle agaçante. Chiche que tu relèves le gant. Chiche que tu fais le plus bel exercice de la classe, celui qui laissera pantois d'admiration tes condisciples, ému ton professeur, et à la fin de la lecture, ils resteront muets quelques instants, unanimement, et décideront qu'il faut proposer ce texte au concours de l'année, préfigurant sans doute l'accueil que lui réservera le jury, puis la presse enthousiaste. Bon, chiche ! Mon imagination s'emballe vite. Ma plume, beaucoup moins. Mon imagination m'entraîne souvent vers des sommets sans oxygène. Ma plume, moins. Chiche ! Me dit encore l'homme mort. Mais la femme vivante sait que ses camarades écrivent pendant ce temps de jolies choses, fantastiques, poétiques, comiques. Comme Jiminy Cricket qui murmure que s'il se savait capable d'en faire autant, voilà, il en ferait autant. Mais non, pas trop rêver, pas trop risquer. Alors l'homme mort me taraude, je traverse mon verger inondé de soleil tiède et de cris d'enfants. L'homme mort, oui, par exemple, croquer une pomme, sûrement empoisonnée. L'homme mort, oui, mon amant cynique à qui il faut que j'écrive de sublimes lettres d'amour magnifiques. L'homme mort qui ricane dans l'ombre. Oh là là, l'homme mort, l'homme mort, l'homme mort. Enfin. Le soleil me paraît terne en cette fin d'octobre. Les enfants, plus rares dans le verger, j'ai pris froid. L'hiver arrive. Et ce n'est certes pas une minuscule corde de microbes qui va avoir raison de mes certitudes de femme vivante. Je prends le train pour Paris, la ville lumière. Je vais promener mon optimisme dans les expositions de peinture, sur les quais de Seine ensoleillés, aux terrasses vivantes. Je fais la queue dans les musées, je m'enivre de couleurs vives, d'exotisme, de voyages. Je marche de Saint-Germain au Panthéon, je fends des foules d'étudiants bigarrés et prolixes. J'effleure des terrasses bondées de Parisiens qui, encore lunettes de soleil sur le nez, rient de l'arrivée imminente de l'hiver. Mais l'homme mort m'a suivi. Ben oui, je le trimballe depuis une semaine maintenant. Il me bouffe familièrement la tête. Et là, bon, il se tait, mais je l'entends quand même me grignoter la vie discrètement, heure après heure. Et là, soudainement, à 17h23, il m'a rattrapé. Il m'a rattrapé pour de bon. J'ai lu partout dans le métro, dans les lieux publics, des mises en garde. N'abandonnez aucun colis. Si vous repérez un bagage suspect, signalez-le à la police. Alors, ces Français, oui, bien sûr, ils ont pensé à la femme vivante, à la phobie des attentats. Évidemment, tout ça, c'est pour tout le monde, mais ça rend parano à force. Alors, j'avais haussé les épaules vivantes en cette magnifique journée où le regard des hommes aux terrasses confortait mes belles assurances. Vivante, j'avais arpenté les rues de l'île Saint-Louis, mon long manteau noir flottant au vent, sans me douter que dans ces plis d'ombre, l'homme mort marchait derrière moi. J'étais arrivée à la gare du Nord par le métro à 17h10 et à 17h15, je repérais une terrasse en hauteur surplombant les quais destinée aux voyageurs des grandes lignes. Je m'étais penchée quelques minutes à la balustrade et puis je m'étais assise. Oui, j'aimais toujours contempler les foules de mes semblables, ces petits insectes multicolores qui, eux aussi, immobiles, attendaient leur homme mort mais ne le savaient pas. Et dans une rangée de trois, le siège de gauche était libre et je m'étais assise. Et à 17h23, l'homme qui occupait le siège de droite et qu'intérieurement j'avais qualifié d'allemand à cause de la rigueur de sa mine, l'homme se leva et je ne compris pas pourquoi il abandonnait ce siège pour un autre éloigné d'à peu près 10 mètres quand je vis entre nous, oublié, indifférent, une mallette, une valise, un manteau. Ben oui, c'était les siens. Et je sentis le baiser de l'homme mort dans mon cou. L'Allemand, en manteau, assis plus loin, ne se préoccupait pas du bagage abandonné, ni du reste du monde d'ailleurs. À 17h26, il se leva pesamment et se dirigea vers la sortie. Était-il un vétéran de la Rote Hermé Fraktion ? Était-il un pote de la bande Abadère, sorti de l'ombre 20 ans plus tard pour venger ses pères? À la balustrade, un voyageur mince, élégant, me fixait par-dessus sa revue. Il pensait sûrement que le bagage m'appartenait. Ben oui, joli stratagème. Tu t'installes avec armes et bagages, avec armes surtout, en l'occurrence, me disais-je. Et dès qu'un pigeon choisit de s'asseoir de l'autre côté de la valise mortelle, tu files. Les bagages semblent toujours accompagnés, ni vus ni connus. Mes jambes étaient parcourues de petits frissons électriques qui précèdent la fuite. Mais mon cerveau ne leur donnait pas l'ordre de se mouvoir. « File !» hurlait mon cœur. « À quoi bon ?» raisonnait ma tête. « Eh oui, à quoi bon ? La mort a cela d'intéressant que quand on est mort, on ne le sait pas. Pourquoi la craindre ? Au milieu de ma trouille, fleurissait l'idée de moi morte. Tout rentrerait dans l'ordre, finalement. Les enfants me pleureraient, mais je deviendrais, sans effort, une mère idéale, à jamais nimbée de perfection posthume. Je ne me faisais qu'un petit souci pour eux. Leur père n'était pas un mauvais père, loin de là, mais juste un mauvais mari. Et quand même, quelle revanche que ma mort. Je souriais en pensant que peut-être la petite pétasse qui lui servait de maîtresse serait là pour tenir compagnie. C'était magnifique. Sainte maman, oui, sainte maman, remplacée immédiatement par la petite pétasse de service. Et pour les siècles des siècles, sainte maman, amen. Et mon œuvre ? Ah ben oui, bon ben ça, il fallait que je règle ça finalement, mon œuvre. J'avais écrit 6 nouvelles. Oh ben on en publierait bien une, à titre posthume, dans le bulletin de l'Association des écrivains, ou au moins le bulletin de l'Association des habitants du quartier. Et puis peut-être une autre, dans le Canard, où de temps en temps j'écrivais des participations. Et puis peut-être aussi une dans cette revue mondialement connue dans le tout Brabant Wallon, où je participais aussi quelquefois. La gloire, quoi. Les gens jugeraient mon style prometteur. Sainte plume emportée dans la fleur de l'âge, dans une aube gonflée de promesses. Gonflée, sainte plume, tu parles. Parti sans laisser d'adresse, sorry pour les promesses, pirouette. Et bien sûr, je voyais déjà mon enterrement. Quelle jouissance ! L'église est pleine, bien que, bon, je n'ai pas de religion, mais dans notre petite communauté universitaire, n'est-ce pas, l'église, c'est un lieu d'accueil et de tolérance. Alors, mon Dieu, voilà que je suis en train d'écrire l'homélie du curé. Oui, je le voyais, souriant, compassé, mou, longeant mon itinéraire philosophique, mon indépendance d'esprit, et louangeant mon écriture, se rappelant sans doute la fois où il avait failli recevoir mon pied au cul parce qu'il avait proposé ses services pour bénir la maison que je venais d'acquérir. Je voyais mes voisins, mes collègues, des copains de tout poil, le club des mères de l'école transformé pour l'occasion en club de pleureuses professionnelles. Les intentions choisies, les sanglots dans la voix. Ah, belle homélie! Et la pétasse, alors, la pétasse de mon mari, elle n'est pas là? Ah ouais, ma belle-mère a dû la consigner à la maison, quand même. C'est pas décoratif, une maîtresse de service. Alors, à la niche, la maîtresse, bon, d'accord, il y a des jours où il faut savoir rester à sa place. Ma belle-mère, peut-être ? Oh non, 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 pas ma belle-mère, non. Alors, je ne voulais pas de cette mise en scène-là. Pas ma belle-mère, pas les pleureuses de l'école, pas de Bach, pas de Saint-Augustin. Allez, vite, mon carnet. Mon carnet, il faut que je laisse des instructions et que je dresse des listes. Je regardais tristement mon petit carnet. Il gisait au fond de mon sac. Qu'en resterait-il après l'explosion ? Ça brûle tout, une explosion. Ça déchiquette. Mon joli petit corps de femme vivante, mais aussi, juste à côté de la bombe, mon sac, mon carnet. Aucune chance de pouvoir le relire, aucune chance de se voir une postérité. Qu'est-ce qu'on retrouverait ? Des petits morceaux sanguinolents et des petits morceaux de carnet éparpillés aux quatre coins de la terrasse. Peut-être quelques dents, un éclat de montre, un bouton doré. Mais vraisemblablement, sûrement pas la liste de ce que je pourrais faire, de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il faudrait faire après mon éparpillement. Oh là là, après cet octobre fatal, au milieu des décombres fumants que fouilleraient les sauveteurs, parmi les pleurs et les râles des victimes encore vivantes. Et puis, 17h29, l'homme mince, accoudé à la balustrade, ferme sa revue, se dirige vers le siège voisin du mien, s'empare de ses bagages et se dirige vers notre train qui vient d'entrer en gare. Dans un grand bruit de frein, j'entendis l'homme mort hurler de rire. Et je filais prendre mon train sans demander mon reste. Alors, le texte, l'exercice de l'homme mort, j'allais le faire? Ah, j'attends encore mes techniciennes. Je suis un peu en avance, donc avant de vous dire au revoir et de demander la musique du générique, je vais vous redonner donc les coordonnées de tout à l'heure, ciné plein air sur le site de la mairie de Marseille et festivalpiano.com ou bien le site du département pour les concerts gratuits dans les Bouches-du-Rhône. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine, plein de belles distractions, plein de belles lectures, plein de belles sorties du soir, et galère, galère, à bientôt.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika.